Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les amis d'Orwell et aujourd'hui nous avons comme invité Maurice Rachfus qui a notamment écrit le livre « Portrait physique et mental du policier ordinaire » aux éditions Après la Lune.
Écoutiez Portiched. À toi, Amanda.
Donc vous êtes avec les amis d'Orwell et comme je le disais tout à l'heure, donc aujourd'hui nous avons invité Maurice Rachfus, donc historien et auteur de nombreux ouvrages, une cinquantaine environ, sur la Shoah et la police, dont un tiers sur la police. donc Maurice Rachfus, il a cofondé l'Observatoire des libertés publiques en 1994. Donc qui édite un bulletin mensuel que fait la police. On retrouve donc ce bulletin sur le site http://quefaitlapolice.samizdat.net. Donc pour citer alors les derniers ouvrages donc de Maurice Rachfus, c'est À vos ordres jamais plus aux éditions du Monde libertaire, mais aussi Candide n'est pas mort aux éditions du Cherche Midi. Et je peux citer aussi donc Drancy, un camp de concentration très ordinaire, 1941-1944, aux éditions du Cherche Midi. Les mercenaires de la République, édition du Monde libertaire en 2008. Et le livre dont on va parler un peu plus aujourd'hui, plus particulièrement, donc c'est Portrait physique et mental du policier ordinaire, qui est sorti aux éditions Après la Lune l'année dernière, en 2008. Donc... Maurice, tu as écrit, donc, comme je le disais tout de suite, un tiers de tes ouvrages donc sur une cinquantaine traitent de la police. Peut-être tu peux nous expliquer pourquoi tu t'intéresses tant à ce sujet.
Ce n'est pas c'est pas obsessionnel. il y a des sujets plus intéressants. Seulement, il est nécessaire qu'une population un peu dans l'apathie, attentiste ou indifférente, prenne conscience de ce que peut représenter la police en période troublée. En fait, c'est parti d'un constat extrêmement simple. Moi, j'ai pas fait d'études ni universitaires ni secondaires, mais mes humanités sont arrêtées en cinquième du fait de la guerre. Et il se trouve que j'ai lu Hegel, c'est pas facile, hein, et la phénoménologie de l'esprit, dans la mauvaise traduction, celle de Jean Hippolyte, mais j'en ai quand même tiré un enseignement intéressant, c'est la fonction crée l'organe. Et ça s'applique tout à fait directement aux policiers en général et à nos policiers français en particulier.
Enfin, on peut peut-être rappeler que donc, tu connais bien ces policiers et que dans ta vie personnelle, en fait, tu as été personnellement touché par...
Ça a commencé à une mauvaise époque. Hein. Je ne vais pas faire d'amalgame avec maintenant, mais le regard mauvais elle-même, ça a commencé le 16 juillet 1942, quand j'ai été raflé avec mes parents par des policiers bien français, dont l'un avait été notre voisin de palier. Donc ça laisse des traces, mais j'ai pas écrit sur la police en référence à cet événement-là, puisque j'ai commencé à écrire sur la police en 1987, donc il fallait le temps de la réflexion.
Mais pourquoi en 1987 alors ?
Parce que j'ai publié en 87 un bouquin qui s'appelle « Jeudi noir », où je raconte la journée de la rafle. Enfin, j'avais écrit pas mal de choses avant, mais j'avais voulu fixer la journée de la rafle telle qu'elle s'était déroulée où j'habitais à Vincennes.
Et comme je le disais tout à l'heure, donc tu as participé à la création de l'Observatoire des libertés publiques. Tu peux nous dire qu'est-ce que c'est cet observatoire et dans quel contexte il a été créé ?
Eh bien, en 93, il y a un jeune Zaïrois qui avait volé une cartouche de cigarette, c'est pas bien. Il a été enfermé au commissariat des grandes carrières. Et comme il était mineur, il devait être relâché le lendemain. Et il devait être relâché même le soir, mais son père n'est pas venu le chercher pour lui donner une leçon. Et le lendemain matin, en attendant que le papa arrive prendre le garçon qui s'appelait Macomé, il y a un inspecteur qui a voulu lui donner une leçon et qui a fait un interrogatoire tout à fait illégal. Et avec le revolver en main, ce qui est encore plus illégal. Et puis à un moment donné, le garçon qui était attaché à une chaise s'est rebellé, a dû insulter le policier. L'autre a dit « Tu vas voir qui est le patron ici », puis il lui a tiré une balle dans la tête à bout touchant.
Donc ça, c'était en 93.
Et donc à la suite de ça, on a fait un certain nombre d'opérations, de dénonciations des comportements de la police, mais qui n'aboutissaient pas. Et à la suite de quoi, un an après, donc le 4 avril 1994, avec mon copain Alexis Mention, on a créé Mention, c'était son nom de famille. Avec Alexis Violet, on a créé l'Observatoire des libertés publiques.
Donc tous les mois, il y a un bulletin que fait la police que tu écris, enfin, j'imagine, avec d'autres. Et qu'est-ce que tu dénonces en fait dans ce bulletin ?
Je dénonce pas, j'ai horreur du mot. Non, tous les mois, je fais un simple constat. Je fais un boulot de soutier, hein. Je lis les journaux, je reçois des coupures de presse de la presse de province. Il y a un édito, et puis derrière, 40, 50, 100 informations sur les bavures du mois écoulé.
Donc tu fais ça tout seul, je crois, maintenant.
Tout seul, oui, parce que Alexis est décédé il y a 3 ans. Et il n'y a pas tellement de volontaires pour venir à la rescousse.
1994, c'est un tournant dans le sécuritaire. C'est à l'époque où Charles Pasqua, pendant l'été 1994, fait des rafles au faciès. C'était un tournant.
C'est-à-dire que Pasqua était ministre de l'Intérieur de 86 et 88. Oui. Il est revenu au ministère de l'Intérieur après la défaite de la gauche en avril 93. Et les flics étaient tellement ravis du retour de Pasqua que dans la première semaine de son retour à l'Intérieur, il y a eu 6 morts. Donc, plus des types retrouvés morts dans leurs cellules. Mmh. Ils s'étaient un peu allumés eux-mêmes, soi-disant. En 94, c'est l'année où il y a les grandes bagarres des collégiens contre le c'était pas le CPE, c'était un truc du même genre.
Oui, c'était La CIP, je crois.
CIP, voilà, le contrat d'insertion professionnelle, où la police s'est conduite avec une sauvagerie envers les collégiens, avec des gamins de 13-14 ans, abominables. Ouais. Donc c'est dans ce contexte-là aussi. Alors, le jour où on a créé l'observatoire, ça se passait dans le 18e arrondissement. On a été à quelques-uns, 5 ou 6, devant le commissariat des grandes carrières. On a accroché un bouquet de roses rouges sur le commissariat. Et dedans, on avait le sentiment qu'il y avait quelques policiers qui tremblaient parce qu'ils étaient, ils n'étaient pas nombreux. On est resté là une heure. Et quand on est parti, un quart d'heure ou une minute plus tard, arrivait une compagnie de CRS pour bloquer le quartier.
Donc tu es avec nous aujourd'hui aussi pour nous parler donc du livre Portrait physique et mental du policier ordinaire. Je vais peut-être lire un ou deux passages et puis après tu vas nous expliquer pourquoi tu as décidé d'écrire ce que j'appellerais un pamphlet, mais ce que toi tu appelais plutôt un faux travail d'anthropologue. Donc page 13, on peut lire « Pour le policier, il n'y a pas d'innocents, seulement des suspects. Cela simplifie l'approche et justifie la rudesse des rapports. » Il y a un autre passage que je trouve assez marrant, page 19. Enfin, marrant. Donc, rares sont les policiers ayant une tête ronde, qui donne un aspect jovial et par là même engageant. Ces brachycéphales, qui ont le crâne arrondi, presque aussi large que long, constituent une espèce connaissant bien plus de bons vivants que de tristes moralisateurs. Il en va différemment des dolichocéphales, qui ont la particularité d'avoir la tête en continuité rectiligne avec le corps, d'où sans doute cette raideur de la nuque qui les distingue parfois des humanistes. Est-ce dire que les dolichocéphales ont plus tendance à devenir des hommes d'ordre ? Ce serait un peu rapide pour décrire nos contemporains de type magdalénien, à la boîte crânienne allongée, qui n'ont pas tous vocation à devenir policiers. À la réflexion, pourtant, il serait intéressant d'attarder notre regard sur les nuques des représentants de l'ordre.
Oui, c'est de la pure méchanceté, hein. Mais il y a une certitude. Pour les policiers qui vivent dans un monde à part, c'est pas notre monde, c'est le leur. Nous sommes tous des individus. Et il n'y a pas de présomption d'innocence, il n'y a que des certitudes de culpabilité. Et armé de ces certitudes-là, le policier considère qu'il n'y a pas de citoyens, donc il y a des individus, qu'il faut tenir sous haute surveillance, qu'en définitive, il n'y a pas seulement la loi qui régit leurs fonctions, il y a la loi qu'ils inventent, eux, en marchant. Et tout ce qu'ils disent est parole d'évangile, parole légale. Et l'éditeur de ce bouquin, Portrait physique et mental du policier ordinaire, Jean-Jacques Reboux, on a fait la meilleure expérience il y a 3 ans, puisque il circulait en sortant d'un garage, il passe au feu vert, il y a un policier qui l'arrête en disant d'être passé au rouge. Non, non, c'est pas vrai. Immédiatement, menotté, pied entravé, délit d'outrage, rébellion, etc. Donc, dans la mesure où, en plus, les policiers sont sous pression de leur hiérarchie, avec des quotas de délits à faire dans la journée et de PV à infliger, eh bien, on assiste à ce type de comportement.
Et ce que nous dit l'éditeur donc, dans l'ouvrage, c'est que quand il a reçu votre livre au départ, il l'a trouvé un peu trop généraliste, un peu trop méchant. Et finalement, suite à cet événement, il a décidé de publier le livre.
Oui, il m'a rappelé en me disant « ça m'intéresse
». Des fois, un événement personnel, ça motive.
Une prise de conscience.
Oui, ça permet aussi... Il y a un autre passage que j'avais envie de lire. Je ne vais pas lire tout le livre, hein, que je trouvais... assez marrant, donc c'est les bilieux. La bile du foie, mal irriguée, peut susciter bien des désagréments. Il est vrai qu'il n'est pas nécessaire de souffrir d'une atteinte de la vésicule biliaire pour avoir le teint jaune et la langue chargée. Les bilieux sont fréquemment enclins à de froides colères, à ces emportements qui ne connaissent ni raison ni fin. La profession policière ne manque pas de ces fonctionnaires bilieux, voire atrabilaires. Ces derniers qui ont la bile noire seraient plutôt à classer parmi les pacifistes, car leur mal les rendrait plutôt mélancoliques. Ils peuvent être également picrocoles, ceux qui ont la bile amère. Toujours est-il qu'à l'intérieur des fourgons de police, dans l'attente d'une action qui peut être violente, les crânes s'échauffent et leur état ne s'améliore pas en consommant les canettes de bière servies fraîches par l'administration.
Oui, d'ailleurs, dans ce bouquin, il y a un chapitre sur la bière qui s'appelle « La mousse », hein, plus ou moins, je crois.
Oui, c'est le chapitre qui suit.
Où je dis très tranquillement, et ce n'est pas un outrage, que les policiers ne boivent pas plus de bière que la moyenne des Français. Ce qui est tout à fait dramatique quand même.
Et d'ailleurs, ce qui peut être surprenant, c'est que Jean-Jacques Rebout a été accusé d'outrage vis-à-vis de la police quand il a été arrêté, il s'est rébellé, enfin je ne sais pas exactement. Et en fait, en France, par contre, heureusement, on peut écrire des livres aussi méchants contre la police sans être...
En 96, j'ai sorti un très gros bouquin, 350 pages, qui s'appelle « La police sur la loi ». Avec 20 ans de bavure sans ordonnance. Et j'étais passé, le 7 octobre 96, si j'ai bonne mémoire, sur Canal+, nulle part ailleurs, pendant trois quarts d'heure, vendredi soir. Et le lendemain matin, j'étais au Salon du Livre de Bordeaux. Et en général, c'est le phénomène vu à la télé. J'étais à peine assis, qu'il y avait la foule, ça massait. Bon. La libraire était très contente, les bouquins vendaient comme des petits pains. Et puis arrive un type qui me demande, et ça répond à ta question, à qui avez-vous demandé l'autorisation de publier ce livre ? Je dis, mais ça ne va pas dans la tête. Dans un pays libre, on peut publier ce qu'on veut, sauf être poursuivi ultérieurement pour calomnie ou diffamation.
Mais bon, il n'y a pas eu de suite, a priori.
Non, il est revenu trois fois dans la journée pour m'emmerder. Mmh. Et le soir, j'ai dit à la libraire, si ce monsieur revient, appelez la sécurité.
Donc, ce que tu dis, en fait, dans cet ouvrage, c'est qu'il y a un esprit de corps qui est assez important chez les policiers et qu'on ne naît pas policier, mais qu'on le devient.
Oui, c'est un peu pour démarquer Simone de Beauvoir. Oui. Non, le problème de l'esprit de corps, ça va très loin, parce que quand un policier fait une saloperie, il y a toujours, quand il dérive gravement, il y a toujours un collègue, comme ils disent, pour le soutenir et dire c'est vrai, il a fait ça ou il n'a pas fait ça. Et le meilleur exemple, là j'étais à Bordeaux, j'ai rappelé ça aux gens de Bordeaux qui l'ignoraient, il y a quelques années, il y avait un policier qui avait pris en grippe un SDF. Et toujours il venait, il disait « dégage, je ne veux plus te voir ici ». Puis l'autre revenait tous les jours. Et puis un jour, le policier lui a dit « Écoute, je vais me débarrasser de toi ». Il s'est donné un coup de couteau dans la cuisse. Et puis il a appelé les collègues en disant « Ce monsieur m'a donné un coup de couteau ». Et le collègue qui était à côté dit « Effectivement, bon, le type a été arrêté, jugé, condamné lourdement. » Et le collègue quand même a eu des remords et a raconté l'histoire. Le type a été libéré. Mais l'esprit de corps a fonctionné au départ.
Mais quand même, comment on devient policier ? Tu as une petite idée de comment ?
Bien sûr.
À partir de quand ?
Bon, alors, dans le temps, on disait, enfin dans le temps de ma jeunesse, hein, c'est-à-dire il y a longtemps, que les policiers, c'était les fils de la classe ouvrière, et les gendarmes, les fils de la paysannerie. Pour nous arrêter aux flics, c'était des gros bourrus. Je ne veux pas les qualifier. Ils connaissaient les quatre opérations. Ils avaient un peu d'orthographe. Ils mesuraient 1m65. Puis voilà. Puis ils entraient dans la police. Et puis, ils étaient comme des bœufs de labour. Il n'empêche que ces bœufs de labour, dont certains recrutés autour du Front populaire, ont fait les rafles pendant toute l'occupation contre les Juifs, la traque aux communistes, aux francs-maçons, aux gaullistes, j'en passe, et des meilleurs, sans être jugés après la libération. Et puis, au fil du temps, les écoles de police, c'était 15 jours, après c'est devenu 3 mois, après c'est devenu 6 mois, et depuis quelques années, c'est 1 an. Et on entrait dans la police à 50 ans avec le certificat d'études, maintenant il faut le bac. Eh bien, avec le bac en poche, certains étant même un bac plus 2 chez les CRS, on n'a jamais eu une police aussi brutale, aussi sexiste et aussi raciste. Alors comment devient-on policier ? Dans le temps, c'était le jeune ouvrier revenant de l'armée qui n'avait pas envie de redevenir commis charcutier ou ouvrier charpentier, je ne sais pas, je dis ça au hasard. Alors que maintenant, c'est le chômage et ce n'est pas la vocation. Et bien souvent, on retrouve dans la police des gens qui sont là parce qu'ils ont fait le choix d'être de ce côté de la barricade pour cogner sur les autres avec un salaire approximatif, mais ils n'ont plus la crainte de courir après l'emploi. Mais heureusement que tous les chômeurs ne viennent pas frapper à la porte de la NPA, parce que sinon, ce serait déplorable. Mais il est certain qu'à une certaine époque, on a pu dire que la police était la plus belle à la NPA de France. Ça recrutait à tout va.
Il y a un syndicat important aussi, contrairement à d'autres.
Non, il n'y en a pas. Il y en a une.
Il y a plusieurs syndicats,
il y a deux douzaines. Il y a deux douzaines de syndicats de police.
Les policiers sont plus syndiqués que les ouvriers.
Eh bien, beaucoup. Il y a encore 30 ou 40 ans, le plus fort taux de syndicalisation, c'est les enseignants. Maintenant, c'est les policiers.
Et tu dis dans ton livre que l'institution policière formate, en fait, les policiers.
C'est-à-dire que pour entrer dans la police, il ne faut déjà pas être tout à fait normal. Je ne crois pas à la vocation policière. C'est un peu violent, mais on ne devient pas policier impunément. Cela dit, une fois qu'on est dans l'institution, même si on a un petit brin de vocation et puis un soupçon d'esprit civique, si on veut rester dans le groupe, eh bien, il faut faire comme les copains, il faut cogner, il faut être raciste, sinon on est viré du groupe.
Quand tu dis on ne devient pas policier par hasard, tu veux dire quoi par là exactement ?
Je veux dire par là que quand on prend un certain nombre d'hommes ou de femmes, je vais en reparler après des femmes, devenir policier, c'est pas seulement la volonté de trouver du boulot et puis de nourrir la petite famille, c'est un choix qui est fait de réprimer. Parce que pendant l'année d'école de police, on sait exactement de quoi il retourne. On sait ce qu'on va faire pour le terrain, sur le terrain. On sait qu'on est beaucoup plus content quand la droite tient le manche que quand c'est la gauche. Encore que sous la gauche, c'est pas toujours brillant. Et que, moi, je persiste, que le policier n'est pas un citoyen ordinaire. D'ailleurs, lui-même se veut hors du lot. Quand les policiers parlent de l'institution, ils disent pas la police, ils disent chez nous. C'est-à-dire que chez nous, c'est pas pour nous. Nous, on est chez nous, eux, ils sont chez eux. C'est un monde à part.
Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, maintenant, chez les policiers, on pourrait avoir l'impression que ça s'améliore dans la mesure où il y a des femmes, il y a des personnes d'origine maghrébine, africaine. Et en fait, tu as analysé un peu la femme flic.
Eh bien, on est arrivé à une situation où il y a maintenant, sur les 150 000 policiers et fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, 30% de femmes. Alors, tout de suite, ce n'est pas une conquête du féminisme. Et on en trouve même chez les CRS. Il y a des femmes dans la gendarmerie, et chez les gendarmes mobiles. Il y a des femmes armées dans la douane. Ça n'a pas amélioré la situation dans aucun des secteurs d'intervention de ces différentes unités ou institutions. Les femmes policières, dans la mesure où elles ont besoin de prouver qu'elles sont aussi efficaces que les hommes, sont parfois plus immondes et beaucoup plus répressives. Et il en va de même avec les policiers maghrébins, il n'y en a pas tellement, mais les policiers noirs, qui, eux, souffrent effectivement d'un racisme tellement fort au sein de l'institution. Il y a eu un cas il y a 15 jours qui a été dénoncé sur certaines radios, qu'ils se sentent obligés également d'en faire beaucoup et sont certainement beaucoup plus brutaux avec leurs frères, entre guillemets, de couleur que les policiers bien blancs.
Et tu ne crois pas que, quand même, ils ressemblent à ces, quand on était à l'école, ceux qui aimaient bien se castagner dans la cour de l'école, souvent après ils poursuivent en rentrant dans la police ou... Non, je pense que c'est pas une indication.
Je sais pas, moi, quand j'étais gamin, j'ai jamais entendu des mômes à l'école dire « je veux devenir flic ». Il y en a qui voulaient devenir soldat, aviateur. J'ai jamais entendu dire « je veux devenir flic ». Et je sais pas ce qu'il en est maintenant. Ce qui est certain, c'est que autour de mai 68, les fils de flics, connus comme fils de flics, ont beaucoup souffert dans l'établissement scolaire.
On va passer un petit morceau de musique, une petite pause. On va écouter Loïc Lantoine.
Tout est calme. Trop. Les rires s'éloignent en écho. Les mots s'éteignent dans les gorges. Humanité sort du dico. Et l'audace a éteint ses forges. Les cœurs ne font plus de bruit. Et s'accélère dans le silence. Ça s'inquiète tant que ça fuit dans une douteuse cadence. Le monde est flou et lâche la rampe. On n'entend rien qu'un souffle qui peine Et si contre le vertige on rampe, on goûte à la source de la haine. À les écouter chuchoter, tous ceux qui se font leur beurre de la peur. On fixe demain les yeux fermés, la vie se vide, pleut à pleurs. Tout est calme. Trop. Un œil écarte le rideau. Paraît qu'il paraît. Le voisin a toujours bon dos pour nier sa propre lâcheté. Cette petite musique de mort qui ronronne dedans ma télé me crache qu'il aura toujours tort, celui qui danse de côté. Si les professionnels de la trouille parviennent à nous rallier tremblants et qu'on condamne la débrouille au nom d'un dangereux or puant, il y aura de la merde dans nos urnes et ce silence on se le mangera, journée nocturne et chemise brune, j'ai peur, mais faut pas que ça se voit. Tout est calme. Trop.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire avec les amis d'Orwell et aujourd'hui donc on a invité Maurice Rachus, notamment pour nous parler de son livre Portrait physique et mental du policier ordinaire qui est paru l'année dernière aux éditions Après la Lune. Donc Maurice, tu dis page 36, les forces de l'ordre s'adaptent à tous les régimes. Tu peux développer, enfin.
Ah oui, c'est très très simplement. Oui. Les policiers qui étaient en service sous la République numéro 3 jusqu'au 14 juin 40, arrivée des Allemands à Paris, sont passés du jour au lendemain avec armes et bagages indirectement au service de la Gestapo. Il n'y a pas eu de difficulté. Il n'y a pas eu de difficulté, contrairement aux policiers allemands ou aux SS ou à la jeunesse hitlérienne, ils n'avaient pas subi 10 années d'idéologie et d'endoctrinement. Sans problème, ils ont commencé le travail répressif dès qu'on leur a demandé de le faire, en allant même au-delà de ce qu'on leur demandait. Par exemple, pendant l'été 1940, alors qu'on était encore sous le parapluie du pacte germano-soviétique, je parle pour les communistes, hein, qui n'étaient pas du tout dans la résistance à l'époque, eh bien les policiers ont appliqué la loi Serol, qui était une loi sur la mise hors de la loi des communistes, ont arrêté des dizaines et des dizaines de responsables communistes et de délégués syndicaux qui étaient réapparus au grand jour en pensant qu'ils ne risquaient rien. D'ailleurs, c'est comme ça que Guy Moquet a été arrêté en distribuant des tracts qui n'étaient pas des tracts de résistance, bon, et qui a été fusillé un an plus tard pour des raisons qui n'avaient plus rien à voir avec son arrestation. Donc les policiers français se sont toujours voulus très performants à l'époque, allant au-delà de ce que les Allemands leur demandaient, avec la volonté de la performance, si on peut dire, pour en revenir à mon cas personnel. Quand il y a eu la circulaire de la rafle du Veldiv, du directeur de la police Henquin, il était question d'arrêter uniquement des étrangers. Eh bien, les policiers, ce jour-là, moi j'étais arrêté ce jour-là, j'étais français, ma sœur aussi, les policiers ont arrêté 4000 mômes français. Parce que c'est, dans leur esprit tordu, des fils étrangers, ça pouvait être que des petits métèques. Et tout au long de la guerre, ils sont signés de cette manière-là. Par exemple, quand il y a eu l'obligation de porter l'étoile jaune, traquer les gens qui la portaient bien, qui la portaient pas bien ou mal cousue, allant vraiment au bout de la consigne qu'on leur donnait, parce qu'ils voulaient être performants. J'ai un très beau dessin de ciné chez moi à la maison. C'était une commande, il me l'a fait comme je lui ai demandé, où on voit un policier qui tient dans une main la Francisque de Pétain et dans l'autre la Croix de Lorraine de Gaulle. Parce que jusqu'au 15 août 44, ils ont sur leur vareuse la Francisque de Pétain, et puis à partir du 25 août, ils mettent la Croix de Lorraine. des gens qui sont toutes mains et tout près du pouvoir, quand ils ont le sentiment que ça peut leur être utile. Alors, l'exemple le plus drôle, si on peut dire, c'est qu'à la Libération, il y a le sentiment très fort que, moi j'étais gamin, mais on était nombreux, à penser que c'était le début de la Révolution. Beaucoup de policiers l'ont cru aussi. Et il y a eu des centaines d'adhésions à Paris, de policiers au Parti communiste, et des milliers d'adhésions de policiers à la CGT. Parce qu'il n'y avait pas de syndicat policier à l'époque. Ils ont adhéré à la Fédération des fonctionnaires CGT par milliers. Parce qu'ils étaient persuadés qu'ils seraient du côté du manche et que dans leur esprit tordu, on allait vers une sorte de démocratie populaire.
Mais avant-guerre, les policiers étaient déjà là pour la répression du mouvement ouvrier, non ? C'était une période dure. Avant 36.
Ah bah c'était il y a eu
les petites manifs de maintenant par rapport à l'époque, c'est rien quoi. Non.
Non, on peut pas comparer, c'est-à-dire que des fois, il y a eu jusqu'au début des années 30, il y a eu les interdictions de manifs du 1er mai où les flics chargés à cheval avec sabre au clair jusque dans les couloirs des immeubles dans les quartiers populaires où Paris était en état de siège. Et puis ça s'est calmé après le 6 février 34. Où indifféremment, les flics ont tué des fachos, et puis la semaine d'après, des ouvriers à la gare de l'Est.
Donc, c'est 39-40, c'est bien spécifique, c'est bien...
Ah bah c'est le tournant, hein. Le tournant, c'est l'arrivée des Allemands à Paris.
Et après, tu dis aussi qu'il y a deux autres périodes, en fait, qui marquent le renforcement de la police. Donc, il y a la guerre d'Algérie en mai 68.
Bien sûr. Parce que la guerre d'Algérie, on a le sentiment que les policiers, parce que, ben je vais faire une petite digression, les policiers, comment dire, pour rire un peu, les policiers ne sont pas xénophobes. Simplement, ils n'aiment pas les étrangers. Ils ne sont pas racistes. Simplement, selon les périodes, ils n'aiment pas les Youpins ou les Bougnoules, entre guillemets. Donc, la guerre d'Algérie... Ça permet de se défouler contre les Arabes, contre les Algériens qui sont en France, qui à l'époque sont des citoyens français. Jusqu'en février 62, les Algériens sont citoyens français. Il y a trois départements français en Algérie. Et on a le sentiment maintenant, quand on regarde ce qui se passe dans les banlieues, que pour les héritiers de ces policiers-là, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Et que ce n'est pas seulement la chasse aux trublions, c'est la chasse à l'arabe. Et alors l'autre période, c'est mai 68. Et alors, les policiers n'aiment pas beaucoup tout ce qui est étranger, et les policiers de l'époque n'aimaient pas beaucoup tout ce qui était jeunesse étudiante. Donc, dans leur esprit tordu, tous des fils de bourgeois qu'il faut remettre à la raison, et il fallait voir avec quelle, comment dire, vigueur ils ont cogné, gazé... Je sais pas, moi, il m'est arrivé d'avoir la trouille dans ma vie. J'ai vu des chars policières qui me foutaient la trouille en mai 68, pire qu'à Charonne.
Parce que ce qui est surprenant, enfin, ce que tu dis aussi, c'est que depuis l'avènement de la Première République, la police a vu ses prérogatives, son pouvoir finalement se développer. Mmh. Et qu'est-ce qui, enfin, donc c'est des événements comme ça qui permettent à la police d'avoir plus de pouvoir.
Ça a surtout commencé avec Fouché, hein. Fouché, ministre de la police, premier détenteur de ce titre, Fouché qui avait suggéré à Napoléon, à Bonaparte, en 99, de ficher l'intégralité de la population française. Mmh. Ce qui était un truc imbécile, parce qu'avec des bouts de papier, c'était infaisable. Maintenant, avec l'informatique, il suffit de pianoter un peu, on a tout ce qu'on veut en faisant le tri. Hein.
C'est génial.
Et alors, tu fais même des comparaisons entre les policiers d'aujourd'hui et les policiers de l'époque de Vichy, en disant que les policiers de Vichy répondaient à des ordres, alors que ceux d'aujourd'hui font des bavures. Enfin, t'as l'air de...
Je dis pas ça comme ça exactement.
Ouais, alors je te laisse le
non,
dire.
Non, non, je dis simplement que, je sais pas si je l'ai pas dit, j'aurais dû le dire, qu'ils n'étaient pas obligés d'obéir aux injonctions de la Gestapo ou de Vichy, ils avaient le droit de quitter l'institution policière. Et que, à l'époque, eh ben, ils étaient très occupés parce qu'il fallait chasser les juifs, les communistes, j'ai dit tout à l'heure, les résistants, les trafiquants du marché noir, j'en oublie, tous ceux qui étaient dénoncés parce que les lettres de dénonciation sont arrivées par millions dans les commissariats et commandantaux à cette époque. Alors que maintenant, le policier se. On ne peut pas établir de pourcentage. Et bien, nombreux ceux qui se comportent, tu parlais de bavure, comme des petites frappes. L'année dernière, c'est rare qu'on a ces statistiques, mais il y a quand même un peu plus de 3000 policiers qui sont passés devant les commissions de discipline de la police. L'ennui, c'est qu'on ne connaît pas la répartition des délits. On ne sait pas combien ont été révoqués, avec ou sans pension, combien on fait de la tôle, combien on reçoit un simple blâme. Mais j'ai publié il y a quelques années un bouquin aux éditions L'Esprit Frappeur sur les bavures policières où j'ai recensé sur une période de quelques années non pas les bavures brutales, mais les vols avec effraction, les escroqueries, les viols, etc. Le policier, comment dire, en dehors de son service, ou même pendant, est un, j'ai une chose horrible, et peut être un homme ordinaire.
Mais tu penses que mai 68, l'après mai 68, il y a une évolution qui se poursuit ou...
Mais oui, parce que c'est une histoire qui remonte à la libération. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de répression, il n'y a pas eu de procès de la police qui était à 100% de ses effectifs aux ordres de Vichy et des nazis. Moyennant quoi, De Gaulle a besoin de police, il l'a gardée telle qu'elle était. Il y a 4000 policiers qui ont été comment dire, jugés en interne par les comités d'épuration de la police, donc par les collègues, qui ont épuré les plus pourris d'entre les salauds. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et puis ceux-là, eh bien, se sont constitués en une sorte de syndicat des éloignés de la police, se sont fait réintégrer pour vice de forme, et comme ils avaient perdu des années de traitement et des années pour l'avancement, ceux-là ont avancé beaucoup plus vite dans l'état-major de la police à Paris, par exemple. On les a retrouvés au premier rang dans la répression contre les Algériens en octobre 61, et puis en mai 68. Et puis après, ils ont eu des héritiers. Et puis, entre-temps, il y a eu la guerre d'Algérie qui a vraiment durci les rangs de la police parce que en grand nombre ont été enrôlés dans les rangs de la police des jeunes qui revenaient d'Algérie après le service militaire. Et qui se sont comportés envers les Parisiens ou les Lyonnais ou les Marseillais comme ils se comportaient envers les Algériens, pour faire un saut en arrière de 150 ans, quand il y a eu le coup d'État du 2 décembre 1851, le futur Napoléon III a fait le coup d'État, non pas avec l'armée, mais avec la police. Et les policiers étaient lancés contre les Bédouins. Les Bédouins, c'était les ouvriers parisiens.
Il y a une dernière période qui est aussi marquante dans le renforcement de la police, c'est à partir de 2001. Et peut-être septembre 2001, et puis les campagnes ultra-sécuritaires.
Eh bien, ça a commencé vers 2000. Il y a une surenchère entre la droite et la gauche sur le problème de la sécurité. Et Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de l'Intérieur depuis mai 97 jusqu'à la fin de l'été 2000, a marché sur les traces de ses devanciers, en expliquant qu'en France, il y avait une tradition de police d'ordre, donc la NUCRED. Et puis donc, quand la campagne électorale a vraiment commencé un an avant les élections, il y a eu cette surenchère dont je parlais un instant. Et le ministre socialiste de l'Intérieur, un certain Daniel Vaillant, qui ne s'est pas repenti depuis, nous a pondu la fameuse loi LSQ, loi sécurité quotidienne, qui mettait déjà en œuvre tout ce que Sarkozy a repris après, entre autres les arrestations dans les halls d'immeubles, les ouvertures sans raison des coffres de voitures. Et ça allait tellement loin que quand la gauche a perdu les élections au printemps 2002, il y a eu tout de suite une loi sécuritaire de Sarkozy. Et on a entendu Vaillant sangloter « Il m'a volé mon programme ».
Mais c'est déjà les socialistes qui ont créé les CRS, je crois.
Le CRS, c'est plus compliqué que ça. Ça a été créé en 1945, quand De Gaulle était au pouvoir. Les CRS, c'est une histoire tordue. Il y a eu, sous l'occupation, des groupes de policiers qui s'appelaient les GMR, qui étaient les pires ordures de la police nationale. Eh bien, à la Libération, il voulait reconstituer un corps répressif, de Gaulle, hein, qui ressemblait un peu à ce qu'avaient été avant la guerre les gardes mobiles. Et il a fait un amalgame entre des groupes de GMR et des FTP qui sortaient du maquis. Donc ça a fait une mauvaise mayonnaise. Et ce qui fait que deux ans et demi, un certain Jules Moque, socialiste, ministre de l'Intérieur, a fait l'épuration au sein des CRS et viré les anciens FTP.
J'avais envie de lire un passage aussi sur la police et la démocratie. Donc, c'est la page 112. Les policiers étant jugés partis, si l'on se rapporte à l'usage qui est fait des forces de l'ordre et du comportement de justicier de ceux qui portent le képi, il faut bien se convaincre de cette évidence. Les discours sur la démocratie n'ont pas la moindre valeur si les policiers peuvent agir en dépit des lois. Cela exprimé, la répression constituant la seule forme de dialogue connue pour ceux qui disposent d'un pouvoir absolu, celui que confère la force, il convient de bien connaître la nature du discours de ceux qui prétendent défendre nos libertés. La démocratie étant un bien trop précieux pour la confier aux mains des citoyens, sa protection s'impose par la peur du gendarme, qui est le commencement de la sagesse, comme l'explique bien l'adage populaire.
Oui, je n'ai rien à ajouter. Je voudrais rappeler simplement que il y a quelques années, il y a une dizaine, 10-12 ans de ça, il y avait un peu partout en France des affiches que toi tu peux bien connaître, qui étaient « Souriez, vous êtes filmés », avec la tête de Pasqua. Et on m'a rapporté exactement les mêmes comportements à Lille, à Orléans, à Nancy, de lycéens collant ces affiches, se faisant interpeller par les policiers, en leur disant « On n'a pas le droit de se moquer du ministre de l'Intérieur ».
Oui, il y a eu des procès en diffamation.
Voilà. Et ça, c'était inventer la loi en marchant, comme je disais tout à l'heure.
Je vais faire une petite citation. Ce qui importe, c'est la sûreté de l'État. Notion apparue et développée au cours de la Révolution française. C'est à ce titre que peu à peu, la police a affirmé son pouvoir face aux politiques, auprès desquels elle tendra à se rendre indispensable.
Oui, parce qu'il n'y a pas que liberté, égalité, fraternité. Il y a sûreté et puis, propriété, qu'on oublie toujours.
Est-ce que c'est pour ça? Parce que, effectivement, a priori, comme tu le dis dans ton livre, la police ne respecte pas les lois.
Ses propres lois.
Ses propres lois. Et pourtant, oui, donc, je voulais en venir au code de déontologie de la police nationale, donc, qui a été créé par décret le 18 mars 86. Alors, pourquoi il a été créé ce code de déontologie, surtout s'il n'est pas utilisé?
Il y a deux périodes importantes. Il y a le code de déontologie de la police nationale, qui a été élaboré par les socialistes, juste avant qu'ils ne perdent les élections, en mars 86, où il est dit, très clairement, c'est bien codifié, tout ce que le policier doit faire. 5 ans plus tard, en 1991, les socialistes sont revenus au pouvoir. Et ils éditent non plus un code de déontologie, mais un code de bonne conduite de la police. Et là, il est dit tout ce que le policier ne doit pas faire. C'est-à-dire que la situation ne s'est pas améliorée dans les 5 ans qui ont précédé. C'est le guide de la déontologie policière.
Donc pour revenir au code de déontologie de la police nationale, donc il y a à la fin de ton ouvrage, il y a quelques définitions. Donc c'est un document remis à chaque policier lors de sa prise de fonction. Institué par décret donc, du 18 mars 86, il s'inspire de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des conventions internationales et des lois. Donc, je vais citer l'article 7, un extrait de l'article 7. « Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes. » Article 10. « Toute personne appréhendée, placée sous la responsabilité et la protection de la police, ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence, ni aucun traitement inhumain ou dégradant. »
Et il est ajouté plus loin, c'est pas là, que si un collègue est au courant de dérapage policier ne respectant pas le code, il doit le signaler à sa hiérarchie.
Donc ça, belle histoire.
Comment? Oui, c'est drôle.
Donc effectivement, ça nous amène donc à la police aujourd'hui. Enfin, bon, on n'a fait que d'en parler, mais... Ce qui est intéressant de dire, c'est que donc en France, il y a un policier pour 250 habitants.
À Paris.
À Paris.
Oui.
D'accord. Alors, est-ce que c'est important ou pas par rapport à d'autres pays européens ?
Il y a beaucoup plus de policiers à Paris par habitant qu'en banlieue. Hein. Parce que la bonne bourgeoisie parisienne a besoin d'être assurée. Il y a quelques années, il y avait eu un sondage paru dans Le Monde où il était dit que plus on s'éloignait des zones dites sensibles, plus la demande sécuritaire était forte. Donc en Allemagne, en Angleterre, c'est un policier ou gendarme pour 350 habitants.
Et aujourd'hui, enfin, donc, la police a de plus en plus de moyens scientifiques aussi pour encadrer la population. Mais est-ce qu'on peut dire en fait que... est-ce qu'on peut parler de société policière,
Oui, c'est ce que je dis. On n'est pas dans un état policier. Sinon, on ne serait même pas autour de cette table en train de batifoler gentiment sur cette institution. Société policière, sûrement, oui. Parce qu'il y a de plus en plus de groupes policiers, de monde armes, d'idéologie policière, de volonté sécuritaire, d'incitation à dénoncer. Et on est vraiment en marge d'une société policière. Ce qui m'a amené à dire un jour dans un débat, parce que je suis un peu excessif, qu'en période troublée, un Français sur deux peut devenir flic, l'autre l'est peut-être déjà.
Ceci dit, il y a la déontologie, mais il y a aussi eu un glissement sémantique. C'est-à-dire qu'avant, les policiers se disaient gardiens de la paix. Quoi. C'était sans doute une...
Le titre existe encore.
Mais c'est plutôt force de sécurité maintenant.
Oui, on dit vous m'enverrez 10 gardiens, j'en ai besoin, oui. Oui, c'est les forces de l'ordre.
Forces de l'ordre, c'est bien plus clair. Quand
même. Alors, cela dit, dans le cadre de la politique de Sarkozy de réduction du nombre de fonctionnaires, il y a les effectifs de la police vont diminuer, semble-t-il, de 4 ou 5 000 policiers et gendarmes l'année prochaine. Mais il y a une incitation de Sarkozy demandant aux sociétés privées de sécurité d'augmenter leurs effectifs de 100 ou 120 000 personnes. Et là, on descend vraiment au bas du caniveau parce que ce n'est plus seulement des salauds dans la tête, c'est des vrais petits voyous. C'est la vie de la société, ce qu'on appelle en allemand le Lumpenproletariat.
Et dans quel cadre il a parlé de ça, Sarkozy ? C'est vrai
très
que j'en ai pas entendu parler.
Très récemment. Ouais. C'est la politique de réduction des fonctionnaires. Donc il a incité, et il voudrait 100 000 policiers privés de plus.
Je crois que ça fait à peu près un an qu'il travaille sur ce projet.
Oui, oui. Mais ça commence déjà avec la réduction des effectifs et les syndicats gueulent beaucoup.
Quand tu parles du policier, tu parles aussi du gendarme ou tu fais une distinction entre les deux ?
Bah, je crois que on s'est fait une idée romantique du gendarme. Hein. Si on prend les gendarmes mobiles, ils font exactement le même boulot que les CRS. Hein. Quant au gendarme de brigade, c'est pas un petit saint, c'est un militaire. Alors, on dit oui, c'est des militaires, donc ils respectent beaucoup plus les consignes, l'ordre, la loi, c'est pas vrai. Il y a eu récemment une chose abominable qui s'est passée dans une brigade de gendarmerie, avec plainte de plusieurs gendarmes, noirs ou algériens, qui se plaignaient d'être traités de bougnoules ou de bamboula par la hiérarchie. Non, la gendarmerie, c'est un milieu qui n'est pas forcément recommandable. Hein. Enfin, pas plus que la police.
Mais Michel Alomari, regroupé police et gendarmerie...
Alors ça, c'est une chose qu'on n'avait pas... qu'on ne connaissait pas depuis la guerre.
Les services de renseignement.
Sous l'occupation, c'est l'époque de Bousquet, qui était secrétaire général, avait été mis sous un commandement unique. La police et la gendarmerie, à la Libération, s'est redevenue séparée. Et depuis un an et demi, de nouveau, police et gendarmerie se sont sous un même commandement. Hein. C'est l'unité de décision. Hein.
Je voudrais faire une dernière citation qui va nous amener à l'utopie. au risque de passer pour des débiles profonds, faisant un rêve. Et si le policier protégeait le faible contre le fort, le pauvre contre le riche, l'exploité contre l'exploiteur, les militants des droits de l'homme contre les tenants du pouvoir fort, comment réagirait le monde policier si on lui expliquait que la démocratie est bien plus menacée par ces forces de l'ordre trop nombreuses que par la racaille que Nicolas Sarkozy prévoyait d'envoyer en prison dès l'âge de 10 ans? De telles fictions ne peuvent que faire rire ceux qui ont la lourde tâche de nous surveiller au quotidien pour nous indiquer inlassablement le droit chemin, celui que nous n'aurions jamais dû quitter. Et pourtant, il reste toujours des insoumis qui refusent certaines formes d'autorité, avec cette certitude chevillée au corps que la société peut vivre paisiblement sans police. Peut-être n'est-ce là qu'une utopie, mais comment vivre sans utopie, hein ?
Il y a quelques années, j'avais été invité par une loge du Grand Orient de France, Rue Cadet, à parler de la police. Oh, je ne suis pas sectaire, je vais un peu partout, sauf au Front National, et peut-être même pas au MoDem. Et alors, on m'avait dit, tu vas voir, c'est très sympathique, il y a une salle qui est là, tu vas faire un exposé, on va te poser des questions, on va débattre, c'est très intéressant. Bon, je n'ai pas cru devoir refuser, je me suis pointé rue Cadet au Grand Orient de France. On m'a amené discrètement par des couloirs dans une salle où il y avait déjà, je sais pas, centaines de personnes qui étaient là. Et puis j'ai fait mon exposé. Et puis j'entendais grogner pendant que je parlais. Et brusquement, j'ai pris conscience que la moitié des gens qui étaient là étaient des flics. Parce qu'il y a beaucoup de francs-maçons dans la police, particulièrement dans certains syndicats et dans les grades intermédiaires. Et il y a un type qui m'interpelle, il dit « Comment ?» Parce que ces gens-là se tutoient. « Tu voudrais qu'on vive sans police ?» Alors je dis « Non, ça c'est l'utopie extrême, mais on peut envisager une utopie moyenne. » Par exemple, que le policier ne soit plus sous l'uniforme pendant 30 ou 35 ans, qui vienne de la fonction publique, et ben, il y retourne au bout de 5 ans. Comme ça, il n'aura pas le temps de prendre les mauvaises habitudes, l'esprit de corps, la brutalité, les comportements racistes. Ouais, tu veux tuer notre boulot ? Alors, quand j'étais arrivé, le type qui m'avait acquis m'avait dit, tu vas voir, c'est très sympathique. Après notre débat, on boit un coup, on mange des petits gâteaux. Une fois que j'ai fini de parler, on m'a pris par le bras, puis on m'a raccompagné vivement à la porte. Il n'y a plus rien à boire et pas de petits gâteaux. Donc ça, c'est pour l'anecdote.
Est-ce que tu peux développer alors l'utopie moyenne ?
Non, c'est une blague. Comment dire ? Si c'est un vieux débat, le problème, il n'est pas de dire on ne peut pas vivre sans police. Il n'est pas de dire non plus on ne peut pas vivre sans un certain ordre librement consenti. La difficulté, c'est de définir ce qu'est l'ordre librement consenti. Mais on est dans des sociétés où chacun risque de devenir le flic de l'autre. Et qu'il y a, comment dire, il y a à la fois le regret de certains citoyens de n'être que ce qu'ils sont, la jalousie, l'envie. Et puis là-dessus, il y a une police qui est censée régler les différends, qui ne règle rien, qui ne règle que ses propres comptes finalement, parce que les policiers, eux aussi, ils sont malades de n'être que ce qu'ils sont, avec une hiérarchie qui les méprise. Et un salaire qui n'est pas extraordinaire non plus. Non, c'est un débat qui va très loin. Je voudrais, sans vouloir faire le savant, citer Engels, le complice de Marx, qui, dans l'origine de la famille et de la propriété, rappelle que sous la société des libres citoyens d'Athènes, personne ne voulait être policier. Donc c'est les esclaves qui faisaient le boulot des flics.
Il nous reste peu de temps. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous parler de tes deux derniers livres, À vos ordres, jamais plus, et puis Candide n'est pas mort.
Oh ben, À vos ordres, jamais plus, c'est une longue litanie du refus de l'ordre. Du refus de l'ordre établi, du refus des églises, du refus du pouvoir, du refus du travail obligatoire. C'est un peu l'économie de ce bouquin. Et puis, Candide n'est pas mort. Je suis beaucoup moins Candide que je peux en avoir l'air, malgré mon âge canonique. J'ai pas bougé. Et que, comment dire, de temps en temps, Il faut faire semblant d'être candide. Il faut faire semblant d'être naïf. Il faut laisser parler les autres. Il faut les écouter. Et ça n'engage pas à obéir aux ordres ni à la consigne. Alors en ce moment, j'ai en préparation un bouquin du même genre qui va s'appeler L'intelligence du barbare. Qui sera un livre parallèle à ce que... Mais Jean-Jacques Rebout, il va venir ici, non ?
On l'invite donc au mois de novembre dans le cadre de l'Université populaire de Saint-Denis, puisqu'on refait un cycle sur la surveillance et la société de contrôle.
Il vous en parlera, parce qu'il est en train d'écrire un bouquin qui n'est pas piqué des hannetons non plus.
Qu'est-ce que tu appelles l'intelligence des barbares ?
L'intelligence du barbare.
Du barbare, c'est l'envers de...
Eh ben, le barbare n'est pas seulement féroce. Mais c'est une intelligence très particulière.
Un peu perverse.
Comment ?
Un peu perverse.
Oui, l'intelligence peut être perverse.
Alors, je rappelle donc le site. Alors, c'est toi qui gères le site de l'Observatoire des libertés publiques ?
Eh bien, moi, je vis au Moyen-Âge. J'ai pas d'ordinateur.
Donc, vous êtes au moins deux, alors.
J'ai trouvé un complice qui me saisit les textes que je tape à la machine, parce que j'ai travaillé à la machine à écrire, et puis qui balance ça tous les mois sur... tu disais tout à l'heure HTTP, machin...
Voilà, je vais le dire,
mais c'est pas indispensable. Bah, il suffit de faire Google, que fait la police sur Google, ça...
Et donc, je le redis quand même, http://que-fait-la-police.samizdat.net, donc c'est tous les mois, depuis...
Depuis 15 ans.
Depuis 15 ans que tu tiens...
Il y a eu 120 numéros sur papier, et maintenant on est à 35 numéros sur Internet. Et voilà.
Bah écoute, on a envie de te dire merci, non pas merci d'être venu, mais pour tout le travail que tu fais.
Oui, j'essaye. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'autres n'aient pas eu la même idée. Il y a eu un certain nombre de tentatives qui n'ont jamais duré il y a quelques années, et je le rappelle dans mon prochain bulletin qui va sortir à la fin du mois, qu'en 2000, il y avait une tentative de création d'un truc très, très, très original qui était l'Observatoire des usagers de la police. Et puis il n'y a pas eu de suite, c'est dommage.
Il y a quand même un réseau Internet qui s'appelle Résistons Ensemble qui fait l'inventaire aussi de toutes les bavures policières.
Oui, bon, ils ont le mérite d'exister aussi.
Donc, bah, je rappelle que toutes les émissions des Amis d'Orwell, vous les retrouvez sur le site Souriez, vous êtes filmé, donc souriez.info. Et que, donc, au mois de novembre, on organise donc un cycle sur la société de contrôle. Donc, il y aura donc Jean-Jacques Rebout, donc, éditeur donc, des éditions Après la Lune, et puis qui va nous parler du délit d'outrage. Il y aura Noé Leblanc, qui va nous parler de la vidéosurveillance. Voilà, et puis on aura aussi Pièces et main d'œuvre, qui viendra donc, le dernier. Donc tout ça, ce sera les jeudis de novembre, de 19h à 21h, à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Voilà, donc vous étiez avec les Amis d'Orwell. Merci Maurice.
Et maintenant, on va écouter Les Berruriers Noirs.
Tao sửa lỗ công ty chi, người ta cố ý lấy gì, chỉ tỏ là sai lâu ba, bỏ hết.